Vous rappelez donc, pour ceux qui étaient là, le thème des trois derniers messages que nous avions partagés ensemble en mai, juin et juillet. Vous vous en rappelez? Non? Non? C'était « Attends-toi à l'Éternel ». Et c'était « L'Éternel attend ». Tu peux mettre le titre. Voilà. « Attends-toi à l'Éternel ». Donc je poursuis encore ce thème-là, ce sera la dernière fois, la quatrième fois. Et nous avions vu, notamment, parmi d'autres promesses, partager donc, on avait partagé cette merveilleuse promesse de Dieu. Tu sauras que je suis l'Éternel et que ceux qui s'attendent à moi ne seront pas déçus. Ésaïe 49, 23. On avait partagé aussi, l'Éternel a de la bonté pour ceux qui s'attendent à lui. Lamentation de Jérémie 3, 25. On avait partagé aussi, l'Éternel attend, hein, lui aussi, il attend pour vous faire grâce. Si parfois donc, nous sommes amenés à nous attendre à lui, lui aussi, il nous attend pour nous faire grâce. Ésaïe 30, 18. On a vu aussi, demeure tranquille, appuyé sur l'Éternel et attends-toi à lui. Psaume 37, versets 7 à 9. Et enfin, on avait vu, moi l'Éternel, je hâterai ces choses en leur temps. Ésaïe 60, 22. Quelle promesse, hein ? Pas déçu, heureux, objet de la bonté de Dieu. Il attend pour nous faire grâce et miséricorde et nous invite à demeurer patient, tranquille, sachant qu'il hâtera les choses en son temps. Sachant que ce temps, ça peut être maintenant, aujourd'hui, plus tard ou beaucoup plus tard, en son temps à lui. Quelle promesse, n'est-ce pas ? On peut reconnaître que nous avons là un Dieu comme nul autre Dieu, non ? Jérémie dit, « Nul n'est semblable à toi, ô Éternel, tu es grand et ton nom est grand par ta puissance. » Jérémie 16. David dit quant à lui, « Nul n'est comme toi parmi les dieux, Seigneur, et rien ne ressemble à tes œuvres. » Psaume 86, 8. Imaginez, dans un meeting politique, un orateur qui ferait les mêmes promesses, qui pourrait nous dire, avec moi, vous ne serez pas déçus. Vous l'entendez comme ça. Vous serez heureux. Vous avez vu ? Je vous promets le bonheur. Je parle bien d'un meeting politique. Hein. L'orateur candidat, donc, à une élection. Je serai bienveillant avec vous. C'est tout ce qu'on vient de voir. Hein. Vous pourrez demeurer tranquille car je serai là. Waouh ! Rien ne ressemble à ce que je vous propose. Vous pourrez compter sur moi. Que ferait l'auditoire dans ce cas-là ? Il s'enthousiasmerait, il se lèverait. Il s'enthousiasmerait. Non ? Vous n'avez jamais vu ça ? Eh oui. Et pourtant, sachant que ces promesses ne pourraient probablement pas tout être tenues. Vous connaissez comme moi ce que valent les promesses politiques, non ? Et malgré tout, l'auditoire se serait enthousiasmé. Et nous ? Nous avons un Dieu saint, tout-puissant, dont nul n'est semblable à lui, qui ne nous a caché aucune de ses promesses, aucune, dont il a prouvé hier, aujourd'hui et éternellement qu'il est fidèle, qu'il est infidèlement. Il nous promet qu'en lui, nous sommes victorieux. Et nous restons. C'est le mot. Stoïque. Alors ne serait-ce pas parce que nous sommes dans une société cocooning qui répond à tous nos besoins, ou presque, et qu'on n'éprouve plus le besoin d'aller chercher ailleurs. Ne serait-ce pas parce que tout cela n'est encore pour nous que de belles paroles auxquelles on a encore du mal à s'identifier ? Ne serait-ce pas parce qu'au fond de nous-mêmes, nous ne sommes pas convaincus vraiment que Dieu répond ? Mais au fait, est-ce que nous, on répond à son attente ? Je vous laisse la question sans réponse. Ne serait-ce pas aussi parce que l'on croit plus à ce que l'on voit à ce qui est scientifiquement ou techniquement prouvé plus qu'aux promesses de Dieu. Mais la foi, tout le monde le sait, hein, ça n'est pas se confier en l'homme et ses talents, aussi extraordinaires soient-ils, même s'ils sont bons, car les talents de l'homme viennent de Dieu. Mais la foi, c'est se confier en Dieu. C'est pas voir pour croire, la foi. C'est croire pour voir. Bravo. Et c'est une des principales dispositions de cœur pour être agréable à Dieu et entendu de lui. Rappelez-vous ce que dit Paul, et ça tout le monde le sait, mais je le rappelle parce que... Car sans la foi, il est impossible, c'est bien possible, hein, de lui être agréable, de lui plaire. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu est. Je suis celui qui suis. Je suis le Créateur Tout-Puissant. Qu'est-ce qu'il est ? Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le recherchent. La Nouvelle Française Courante dit qu'il récompense ceux qui le cherchent. Hébreux 11:6. La foi, c'est ça. Et sans cette foi, il est impossible de lui plaire. Quant à Jésus, lui, il nous dit, c'est pourquoi je vous dis, donc, tout ce que vous demanderez en priant, et Matthieu 21:22 ajoute, avec foi, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Marc 11:24. Alors honnêtement, donc c'est pas mis ici, que vous le recevrez, hein. Croyez que vous l'avez reçu, ce que vous demandez. À l'instant où vous le demandez, vous l'avez reçu. À l'instant où je le demande. C'est ce que Jésus nous dit, là, si j'ai bien compris. Vous comprenez comme moi ? Bien. Et honnêtement, n'y a-t-il pas de nombreuses fois où nous prions sans être certains d'avoir reçu ? Honnêtement, hein ? Mais simplement en espérant recevoir, sans trop de conviction. Non ? On verra bien. On verra bien. La foi véritable, c'est ce que Jésus nous dit. Croyez que vous l'avez reçu. Dieu ne peut pas être plus clair. Ceux qui comptent sur moi ne sont jamais déçus, dit-il. Ceux qui comptent sur moi ne sont jamais déçus. Ésaïe 49, 23. Alors y aurait-il parmi nous des personnes qui, ayant demandé quelque chose à Dieu avec foi et un cœur bien disposé, auraient été déçues? La réponse est oui, non, parfois. Pas de oui, pas de non. Oui. Alors oui, donc ça aurait été déçu. Ah. Aurait été déçu, non? Ben non. Oui, déçu. Ok. Bon. C'est important. Je formule ma question autrement. Qui parmi nous peut témoigner que Dieu répond ou a déjà répondu à ses prières? Amen. Alors, n'hésitons pas à rendre gloire à Dieu et proclamer tout haut avec foi que ceux qui comptent sur lui ne sont jamais déçus. Disons-le ensemble, proclamons-le ensemble. Ceux qui comptent sur lui ne sont jamais déçus.
Amen.
Amen. Il y en a ici qui n'ont pas été déçus, hein, parmi nous. Et comme beaucoup d'autres, et comme beaucoup d'entre nous, eh bien, je suis de ceux-là. Et je vais profiter de ce partage pour vous donner deux courts témoignages montrant pour ceux qui en douteraient encore à quel point Dieu est vivant, puissant, présent, agissant et concret. Vous êtes d'accord ? Mi-2018, pas si longtemps que ça, hein. Nous étions tous les deux, Annie et moi, mon épouse, coucou, à la recherche d'un emploi. La fameuse année où l'économie mondiale s'écroulait, vous vous souvenez, suite au subprime. Vous vous souvenez de ça ? Et le chômage augmentait en flèche. Et nous, on recherchait un emploi. À l'époque, j'avais 56 ans. C'est pour citer le contexte, hein. Annie avait 54 ans. Donc, humainement parlant, c'était cuit pour nous. Cuit de chez cuit. Très peu de possibilités de retrouver quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'il nous restait à faire ? Prier et nous attendre à Dieu. Il n'y avait que ça ? Alors, c'est ce qu'on a fait, hein. Et pour faire court, Annie a retrouvé un emploi fin octobre. Et moi, début novembre, sachant que les deux emplois correspondaient à des annonces parues 3 mois plus tôt, c'était le contexte, hein, en juillet, et auxquels les employeurs n'avaient pas encore, en octobre, trouvé quelqu'un. Mais Dieu avait tout préparé dès juillet. Ceux qui s'attendent à lui ne sont jamais déçus. Amen. Ça, c'est pour encourager, hein, les uns les autres. Plus récemment, deuxième témoignage. En janvier 2022, j'ai été atteint d'un deuxième infarctus. Et il m'en était resté de nombreuses extrasystoles. Alors c'est un terme barbare pour beaucoup, ça. Sauf pour ceux qui sont du métier, infirmiers et médecins. Alors en deux mots, les systoles, ce sont les contractions normales du cœur. Hein. Ce sont donc les battements du cœur. Et les extrasystoles, ce sont des battements incontrôlés, complètement, qui se rajoutent. Ça donne une sensation de boitement du cœur. Quand quelqu'un boite, on le voit. Quand le cœur boite, on ne le voit pas, mais on le sent. Et c'est très perturbant. Il m'arrivait d'en avoir toutes les secondes, c'est-à-dire 60 par minute. Et ça, parfois, de façon continue. Alors le cardiologue, en limite de traitement médicamenteux, bêta-bloquant, certains connaissent, m'a envoyé vers un rythmologue. Je ne connaissais pas du tout ça. Rythmologue, c'est un cardiologue spécialisé dans le rythme du cœur, qui m'a dit qu'il y avait bien une solution chirurgicale. C'est bien ça. Agir sur les ramifications nerveuses, mais risqué. Il m'a dit, bon, c'est risqué. Tant que vous pouvez supporter, malgré que ce soit perturbant, vaut mieux ne rien toucher. C'était rassurant. Hein. Alors avec Annie, qu'est-ce qu'on a fait? De nouveau, nous avons prié, mais vraiment, en proclamant que par les meurtrissures de Jésus, j'étais guéri. Pendant quelques mois, rien n'a changé. Mais je restais fermement attaché à la promesse et je remerciais Dieu chaque jour pour sa guérison qu'il m'avait accordée. Et puis un jour, plus d'extrasystole. J'ai pu diviser par deux, de mon propre chef, les bêta-bloquants et je m'aperçois que tout se passe bien. J'en informerai mon cardiologue plus tard quand je le reverrai. Mais pour le moment, tout va bien. Ceux qui comptent sur lui ne sont jamais déçus. Amen. Alors je ne suis pas meilleur que quiconque. Hein. C'est Dieu qui est tout puissant. Et l'œuvre unique de salut et de guérison de Jésus à la croix est éternelle. Amen. Et ce matin, dans mon moment de prière et de rencontre avec Dieu, j'ai fait un rêve en lisant la parole. Alors je rajoute ça à ce qui était prévu, ce n'était pas prévu. Je rajoute 3 minutes. Donc au lieu de terminer à 12h30, ce sera 12h33. D'accord? Vous êtes d'accord? Ces 3 minutes, vous voulez bien? Alors voilà. Voilà ce que j'ai lu. C'est dans Acte 5, verset 14. Une foule de plus en plus nombreuse d'hommes et de femmes croyaient au Seigneur. Et l'on se mit à amener les malades dans les rues. On les déposait sur des civières ou des brancards afin qu'au moment où Pierre passerait, son ombre au moins recouvre l'un ou l'autre d'entre eux. Une multitude de gens couraient aussi des localités voisines, de Trélazé, de Saint-Bar, d'Avrier, de Brissac, de Chalonne, de... and so on, hein? And so on, c'est pour que vous compreniez. Trélazé, je l'ai dit. Les Poncés, Saint-Jean-Linière, Saint-Georges, il y en a d'autres encore, Denay, Saint-Martin-de-Fouillou, d'accord, La Pouesse, et oui, une multitude de gens couraient aussi des localités voisines de Jérusalem. Ils amenaient des malades et des personnes tourmentées par des esprits impurs, et plus que ça, tous étaient guéris. Voilà le rêve que j'ai fait ce matin. Rêve éveillé. Éveillé. C'était en partageant la parole avec le Seigneur. Partageant des moments. Alors, je me suis dit, ben, ça c'est bien. Mais ça m'a ramené à quelque chose d'antérieur. Toujours dans les actes. Je me suis dit, bon, tous étaient guéris. Tous venaient de toutes les régions, toutes les villes, apporter leurs malades. Mais avant, que s'était-il passé? Acte 2, verset 42. Il parle de ceux qui venaient de se convertir, les 3000. Tous s'appliquaient fidèlement à écouter l'enseignement que donnaient les apôtres. Ah, ça commençait par ça. À vivre dans la communion fraternelle. À partager ensemble le pain. Et à participer aux prières. La parole de Dieu est cohérente quand même. Hein. Chacun reconnaissait l'autorité de Dieu, car il accomplissait beaucoup de prodiges et de signes extraordinaires par l'intermédiaire des apôtres. Verset 46. Chaque jour, d'un commun accord, ils se réunissaient dans le temple. Ils partageaient ensemble le pain dans chaque maison, etc., etc. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à leur groupe, les personnes qui l'amenaient au salut. Tous s'appliquaient fidèlement à écouter l'enseignement que donnaient les apôtres, à vivre dans la communion fraternelle, à partager ensemble le pain et à participer aux prières. Chacun reconnaissait l'autorité de Dieu. Et alors, une multitude de gens accouraient, aussi des localités voisines de Jérusalem, ils amenaient des malades et des personnes tourmentées, et tous étaient guéris. Il y avait un point de départ à ça. Il y avait un point de départ à cela. Ok ? Voilà, c'était ma méditation de ce matin. C'est acte 5, versets 14 et 16, à 16. Sinon, la première partie, c'était acte 2, versets 41, 42 et 44, 46. Alors, attends-toi à l'Éternel, hein, je poursuis. J'ai pris 5 minutes, là. Donc, ça fera midi 35. Attends-toi à l'Éternel. On avait terminé le mois dernier par « Demeure tranquille en regardant à l'Éternel et attends-toi à lui. » Et termine aussi par « Moi l'Éternel, je hâterai ces choses en leur temps. » Amen. Soyons donc rassurés et tranquilles. L'Éternel est au contrôle. Il est au contrôle. Et avec une grande vigilance, plus grande qu'on ne l'imagine. Lisons ensemble le psaume 33, 18 à 20, qui nous dit « Voici, l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui s'attendent à sa gratuité. Notre âme s'est confiée en l'Éternel, Darbidi attendu à l'Éternel. Il est notre aide et notre bouclier. » Psaume 33, verset 18 à 20, dans la version Martin. La version Nouvelle Française Courant dit, et c'est intéressant parce qu'elle explicite des choses qu'on n'aura peut-être pas pu comprendre, mais le Seigneur suit du regard ceux qui reconnaissent son autorité, qui comptent sur sa bonté. Nous comptons sur le Seigneur, notre secours et notre bouclier, c'est lui. Et vous remarquerez, ceux qui le craignent, d'un côté, est traduit par ceux qui reconnaissent son autorité. Parfois, donc, cette notion de crainte, ça nous fait un peu peur. Ceux qui le craignent, ceux qui ont peur de lui. Non, pas ceux qui ont peur de lui. C'est ceux qui le respectent, c'est ceux qui, comme on le dit ici, reconnaissent son autorité. C'est ça la crainte de Dieu. C'est reconnaître son autorité. Ainsi donc, Dieu nous suit du regard. Super. Ceux qui reconnaissent son autorité, qui comptent sur sa bonté. N'avez-vous jamais perçu le regard de Dieu sur vous? Nous qui reconnaissons son autorité, c'est tout de même rassurant, non? C'est pas rassurant, ça? Hein? Et imaginez en plus, ces moments où, lorsque vous, vous regardez à lui, en même temps, il vous suit du regard. Eh bien, c'est notamment dans ces moments de rencontre que Dieu est prêt à écouter nos prières. C'est pas moi qui le dis, hein. C'est Pierre. Vous connaissez l'apôtre Pierre? Car le Seigneur a les yeux fixés sur les personnes qui sont justes, c'est-à-dire justifiées, prêts à écouter leurs prières. Le Seigneur a les yeux fixés sur les personnes qui sont justes, c'est-à-dire justifiées, qui croient ce qu'il est, ce qu'il dit, ce qu'il fait. C'est ça. Prêt à écouter leurs prières. Merveilleuse promesse, non? Encore une. Que de promesses ce matin. Mais Pierre poursuit aussi, et on ne peut pas éluder cela par « Mais le Seigneur s'oppose à celles qui font le mal. » 1 Pierre 3,12. Le mal. Selon Dieu, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement se tenir en dehors de sa volonté. En effet, Jésus dit, « Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père, donc le bien. » Ésaïe exprime même, aussi, avec d'autres mots, la même pensée que Pierre, en parlant d'une barrière qu'il peut y avoir entre nous et Dieu. Pourrait-il y avoir une barrière entre nous et Dieu? On n'imagine pas, hein? Et pourtant, que dit Ésaïe? La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Waouh! Super, ça encore, hein? Belle promesse, là aussi, hein? Ceci dit, ne pense-t-on pas parfois que le Seigneur est un peu dur de l'oreille? Non? Non? Son oreille n'est pas trop dure pour entendre. Non, le Seigneur n'est pas trop dur pour entendre. Il n'est pas dur de l'oreille. Mais ce sont vos fautes qui dressent parfois une barrière entre vous et Dieu. Ce sont vos péchés qui le poussent à tourner la tête pour ne pas vous écouter. Ésaïe 59, verset 2, dans la version Nouvelle Français Courant. Et oui. Si Dieu peut nous suivre du regard, il peut aussi détourner la tête pour ne pas nous écouter. Alors dans ce cas, inutile d'insister. Hein. On pourra faire la même prière 10 fois, 100 fois, sans plus de résultats, et attendre longtemps et en vain la réponse de Dieu. Ne serait-ce pas parfois la raison pour laquelle Dieu ne répond pas. Et l'apôtre Paul, bien conscient de cela, et cette parole d'Ésaïe, elle n'était pas dite à des inconvertis, elle était dite au peuple de Dieu. Et l'apôtre Paul, bien conscient de cela, exhorte les chrétiens de Corinthe. Vous entendez bien ? Il l'exhorte, pas des inconvertis, des chrétiens comme vous et moi. Et que leur dit-il ? Eh bien, mettez-vous vous-même à l'épreuve. Examinez votre vie pour voir si vous avez la foi. Oui, faites un peu votre examen de conscience. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, que le Saint est en vous, que celui qui est sans péché est en vous, que celui qui vous a sauvé est en vous, que celui qui est mort pour vous est en vous? Ne le reconnaissez-vous pas cela? À moins que cet examen ne tourne à l'échec. Et que votre qualité de chrétien ne résiste pas à l'épreuve. Corinthiens 13, 5, dans la parole vivante. C'est aussi la parole de Dieu qui nous invite à faire notre examen de conscience. Eh oui! C'est parfois nécessaire, non? Ceci dit, soyons certains tout de même que le Seigneur suit du regard qui? Qui suit-il du regard, notre Seigneur? Ceux qui reconnaissent son autorité et qui, dans les faits, s'appuient sur lui avec une foi réelle, un cœur purifié et s'attendent vraiment à lui. Et David dit même, ajoute même, tout le jour, Satan à lui, tout le jour, fais-moi marcher dans ta vérité et enseigne-moi, car tu es le Dieu de mon salut, c'est à toi que je m'attends tout le jour, c'est-à-dire continuellement. Psaume 25, 5, dans la version Darby. Pourquoi? Car Dieu agit aussi continuellement sur celui qui se place en Jésus sous son autorité. Amen. Et je terminerai par là, en m'appuyant encore sur un psaume de David, qui parle et donne des ordres à son âme. Et oui, on peut parler à son âme. Et je vous y encourage. Car l'âme, c'est le siège de nos sentiments, de nos désirs, de nos émotions, qui conditionne notre comportement. Alors mieux vaut qu'elle soit bien abreuvée par la bonne source, non? C'est pourquoi David dit, mon âme, repose-toi sur Dieu seul. Il donne un ordre à son âme. Attends-toi à Dieu seul. Repose-toi sur Dieu seul. C'est un ordre, Il n'y va pas de main morte, là. Et il dit à son âme, parce que mon attente est en lui. Il dit, attends-toi à Dieu seul, parce que mon attente est en lui. Il lui dit à son âme, lui seul est mon rocher, ma délivrance et ma haute retraite. Je ne serai point ébranlé. En Dieu est mon salut et ma gloire. Mon fort rocher, mon refuge est en Dieu. Psaume 62. 5.8, la version Osterwald. Quelle belle déclaration de David, non? Repose-toi sur Dieu, Dieu seul, lui seul est mon rocher. Alors que de fois, on est tenté de mettre sa confiance en toute autre chose ou toute autre personne qu'en Dieu seul. Bloquant ou pouvant bloquer ainsi les grâces qu'on aurait voulu et pu recevoir de lui. Mon âme, attends-toi à Dieu seul. En Dieu seul, le Père au travers de son Fils, Jésus, est guidé par son Esprit. En Dieu seul, c'est la clé pour recevoir les grâces promises et attendues. Mon âme, attends-toi à Dieu seul. Ce n'est peut-être pas ce que certains prétendront. On cherchera parfois à nous faire mettre notre confiance dans telle église, dans telle communauté, dans telle doctrine, dans tel moyen de grâce, dans telle pratique ancienne ou moderne, dans telle tradition humaine, dans tel rite religieux ou telle liturgie. Mais non, mon âme, attends-toi à Dieu seul. Mon âme, tu as Dieu pour toi, sache-le. Tu as Dieu pour toi, mon âme, et tu es à Dieu. Attends-toi à lui seul. Que rien ne puisse t'empêcher de t'écrier. Et on va pouvoir le proclamer ensemble avec foi pour terminer, de t'écrier, mon âme, on peut le dire ensemble, hein. Mon âme, attends-toi à Dieu, car je le célébrerai encore, il est ma délivrance et mon Dieu. Psaume 42, 12. J'irai vers l'autel de l'Éternel, l'autel de Dieu, vers Dieu, ma joie et mon allégresse. Car mon attente est en lui, il est mon rocher, je ne serai pas ébranlé. Psaume 62, 6, 7. Alors, je demeure tranquille en regardant l'Éternel et m'attends à lui. Psaume 37, 7, 9. Car, tu es le Dieu de mon salut. C'est à toi que je m'attends tout le jour. Tu es le Dieu de mon salut. C'est à toi que je m'attends tout le jour. On peut le dire ensemble. Tu es le Dieu de mon salut, c'est à toi que je m'attends tout le jour. Alors que ces paroles puissent continuer à façonner notre cœur. Amen. Amen.